Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande salle du Centre Pompidou. Merci d'être venus. Nous nous retrouvons ce soir à l'occasion du festival Hors Piste, dont vous avez pu visiter certaines installations avant d'arriver ici, je l'espère. Sinon, vous aurez l'occasion de le faire après ou à d'autres occasions. Ce festival, cette année, avait pris pour thème le thème de la traversée maritime. C'est pourquoi, dans le cadre de la Nuit des idées de l'Institut français, nous avons décidé d'organiser une nuit de la piraterie. Avec différents volets, vous avez normalement pris le programme à l'entrée de la salle. Le premier volet de cette soirée va démarrer maintenant dans le cadre d'un cycle qui s'appelle « Enjeux internationaux » que nous avons démarré il y a maintenant 3 ans à la Bibliothèque publique d'information, que nous organisons en partenariat notamment avec le CERI de Sciences Po, qui est un laboratoire de recherche en relations internationales, et que nous organisons souvent en partenariat aussi avec Marie-France Chatin, qui anime les séances, qui travaille à Radio France Internationale et qui va nous présenter le panel de ce soir. Bonne soirée à tous.
Bonsoir. On va donc parler piraterie. Alors, peut-être quelques mots de présentation. On peut lire dans le dictionnaire que la piraterie désigne une forme de banditisme pratiquée sur la mer par des marins appelés pirates. C'est un phénomène ancien qui a connu des périodes plus ou moins fastes. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ en Méditerranée et au 18e siècle dans les Antilles et dans l'océan Indien. Et en Méditerranée, finalement, il faudra sans doute attendre 1830, date à laquelle la France prend possession d'Alger, pour qu'il soit mis fin, plus ou moins définitivement, à la piraterie, laquelle a disparu des régions évoquées du fait du quadrillage des marines d'État. Alors, à l'instar de la terre, la mer subit elle aussi la criminalité. Depuis les années 90, la piraterie a ressurgi dans les statistiques mondiales, alors qu'elle semblait reléguée à un passé révolu, réduite à hanter les romans et les films d'aventure. On évoque l'après-attentat du 11 septembre 2001 et la lutte contre le terrorisme qui a suivi pour expliquer l'accroissement des actes de piraterie. Est-ce que le lien peut être fait ? Avec nos invités que je vais vous présenter, nous allons dresser un état des lieux des principaux foyers actuels de la piraterie maritime, les réussites, les échecs des pratiques piratiques, les facteurs favorisant leurs émergences, la réalité des menaces qu'elles font peser sur la liberté des mers et les moyens de lutte mis en œuvre par les États pour les éradiquer ou les contenir. La piraterie est depuis plusieurs années inscrite dans les menaces identifiées par l'OTAN, l'Alliance Atlantique, et la communauté internationale. Est-ce que les moyens en œuvre sont suffisants ? C'est ce que nous verrons. Donc, nos 4 participants à cette table ronde, je commence tout à fait à l'opposé de moi, Michèle Battesti est historienne, directrice de recherche au Centre Roland Mounier de l'Université Paris 4 et directrice de l'ouvrage « La piraterie au fil de l'histoire, un défi pour l'État » paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Éric Frécon, enseignant-chercheur à l'École navale, coordinateur de l'Observatoire Asie du Sud-Est au sein d'Asia Centre, auteur de « Pavillon noir sur l'Asie du Sud-Est, histoire d'une résurgence de la piraterie maritime ». Jérôme Michelet, juste à ma droite, ancien officier de marine, membre de l'ONG américaine One Earth Future et directeur d'un projet qui s'intitule « Oceans Beyond Piracy » qui œuvre depuis plusieurs années autour de la question de la Somalie, mais pas seulement, le Golfe de Guinée également, et les actions internationales de lutte contre la piraterie. Et Philippe Delbecq, qui est professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et président de la Chambre arbitrale maritime de Paris. Michèle Battesti, on commence avec vous. On parle de piraterie classique, de piraterie moderne. Sur quoi repose finalement cette distinction ? Qu'est-ce qui caractérise la piraterie aujourd'hui ? Et de quoi la piraterie est-elle le reflet ?
Alors j'ai voulu faire préciser 2 ou 3 choses. Alors d'abord reprendre la phrase de Cicéron, le pirate est l'ennemi commun de tous, parce que c'est une phrase qui est reprise à l'époque médiévale et qui va vraiment structurer le problème juridique posé par les pirates et donc au point de faire l'ennemi du genre humain, puis à l'époque moderne, l'ennemi de l'humanité. Alors, l'ennemi de l'humanité, après les camps de concentration, etc., ça paraissait quand même extravagant. Donc on est arrivé à la déclaration, à la convention de Montego Bay de 1982, et vous voyez, c'est simple, qui est pirate, c'est dans un but de lucre, l'attaque contre un navire qui est en haute mer, pas dans les eaux territoriales, c'est-à-dire il a un statut bien particulier, c'est-à-dire c'est vraiment un criminel de droit commun qui attaque donc en mer, dans un but de lucre, en haute mer. Alors évidemment, cette définition est vraiment récente, hein, donc à partir de 1958, mais donc de 1982, et ce n'était pas comme ça avant. Alors le pirate, c'est très difficile à expliquer. Alors, le suivant, je vais vous montrer d'abord l'origine mythique du pirate de l'époque archaïque grecque. L'histoire, c'est simple, c'est le mythe de Dionysos qui est sur un bateau, qui s'endort et évidemment il part vers l'Illyrie et là les pirates pensent qu'ils vont pouvoir le rançonner et donc ils s'en saisissent, ils prennent le bateau et Dionysos. Et le dieu se réveille, alors il était endormi dans les vins et les vapeurs, vous savez bien, et il s'est réveillé et des pampres de vignes ont empêché le navire de partir. Et surtout, il y a eu des hurlements de loups et de lions qui ont fait que les pirates ont eu peur et ont sauté à l'eau. Poséidon, eh bien, les a transformés en dauphins. Alors les dauphins, ce sont des pirates repentis. Alors ça peut être un moyen, alors vous avez là ce très beau vase, ça peut être tout simplement quelque chose pour conjurer le sort, c'est-à-dire il vaut mieux que vous rencontriez des dauphins qui sont les amis de l'homme plutôt que de vrais pirates. Le problème du pirate, c'est que finalement on ne peut pas vraiment le montrer. Vous avez dans le cas de Astérix, nous sommes à l'époque romaine, et manifestement, Uderzo, ils ont eu des problèmes pour montrer les pirates. Alors vous les regardez, là bien, vous voyez, avec l'œil au beurre noir, enfin l'œil avec un bandeau sur l'œil, etc. Là vous avez, pour pouvoir figurer des pirates de l'époque romaine, eh bien finalement, ils vous ont montré des pirates de l'époque des Caraïbes du XVIIe siècle. Donc la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire, on peut pas montrer un pirate. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ce sont des gens de mer de leur époque. Donc il n'y a pas de différence par rapport aux autres gens de mer, pêcheurs, etc. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, actuelle de définir des pirates. Donc là, vous avez prototype d'une illustration du début du XXe siècle, montrant les pirates. Et puis là, vous avez image de ce qu'est un pirate somalien. Donc là, vous avez un petit bâtiment qui va très très vite. Vous voyez, en principe, ils sont pêcheurs. Le problème, c'est qu'ils ont une échelle et de l'essence. Et vous voyez là, vous avez le prototype là d'un boutre qui est arraisonné par l'opération Atal, pour vérifier s'ils sont oui ou non des pêcheurs. Donc on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à montrer, donc c'est toujours intéressant, qu'on n'ait pas d'illustration réelle du pirate. Le pirate, alors en plus, le mot piraterie, pirate, ça vient du latin, mais ça vient surtout du grec. Et le grec, ça vient de péran. Péran, c'est attaquer, c'est mener une action contre. C'est-à-dire que tout simplement, le mot pirate, lui-même, il vient à l'origine du vocabulaire de la guerre. Et là aussi, va être toute la difficulté de séparer ce qui est guerre ou de ce qui est piraterie. Démosthène disait que la piraterie, c'était la première opération de guerre. Aristote disait, pour être pirate, c'est comme être pêcheur, c'est comme être chasseur, etc. C'est ce qu'on appelle la piraterie naturelle. Donc on a tout ça, on a derrière, même le mot pirate, quelque chose de positif. Ça va tellement loin, ça. Là, vous avez une information donnée par MIT, parce qu'à MIT, il y a un diplôme de piraterie.
Vous voyez jusqu'où on arrive à quelque chose d'assez, une confusion dans ce qu'est le pirate, où finalement on le présente comme quelqu'un de libertarien, puisque on a pensé au XVIIIe siècle que finalement les pirates c'était les seuls hommes libres de l'époque moderne, et comme ils avaient des chasse-parties, puisque c'est dans le monde maritime ainsi ça fonctionnait ainsi, ils avaient même aussi donc la sécurité sociale. Donc vous voyez, c'est très compliqué de vraiment définir le pirate. Alors, qui était-il ? C'est simple, gens de mer, population côtière, pêcheurs, qui se lèvent donc à des activités naturelles, traditionnelles, complémentaires de la mer. C'est aussi des peuples spécialisés. On a trouvé à l'époque de Rome, il y avait les Illyriens, il y avait les Siciliens qui ont été évidemment éradiqués, mais on l'avait Eric Frécon vous en parlera, dans l'Asie du Sud-Est, les Iranoun, vous avez un certain nombre de peuples qui finalement pratiquaient une piraterie tout à fait naturelle, nomade. Vous avez des gens en rupture de banc, hein, qui sont en dehors du système, donc aventuriers, mutins, évadés de prison, déserteurs, transfuges, etc. Donc marginaux de toutes sortes, qui pouvaient se faire pirates. Et vous avez également des organisations évidemment criminelles qui viennent de la mer et qui sont brigandages en mer, et donc qui peuvent utiliser la piraterie. Et puis vous avez des rebelles politiques aussi. Par exemple, à l'époque de Rome, Auguste a qualifié de pirate Sextus Pompée, c'est-à-dire le fils du grand Pompée, qui pourtant a mené la guerre contre les pirates, parce que c'était un rebelle, alors qu'on était dans une guerre civile, il a discrédité en l'appelant pirate. Donc le mot pirate est à prendre avec beaucoup de difficultés, même dans le passé, même dans le présent. Alors ensuite, où il y a la piraterie ? Eh bien, vous avez des milieux géographiques qui sont propices à ça. Il n'y a pas de déterminisme géographique. Toutes les côtes européennes, méditerranéennes ont été piratées ou ont pratiqué la piraterie, mais il faut bien le dire, il y a des milieux propices. Il y a les îles, il y a les côtes découpées, les mangroves, les régions boisées, mais aussi la position à proximité des détroits, car il est évident que pour qu'il y ait piraterie, il faut qu'il y ait des flux commerciaux, parce que sinon, il n'y a pas de piraterie. Donc, on a tous les passages obligés le long des routes maritimes, et il faut aussi des conditions de vent favorables à ce type d'opération. Alors, là, je vous ai mis cette carte qui est une carte des flux maritimes du XVIIIe siècle. Mais en fin de compte, on voit déjà les points qui, dans le futur et qui maintenant, sont effectivement des zones de piraterie. Là, vous avez du point 1 au point 2, menait ce qu'on appelait la route des pirates. Donc, partait des Antilles, allait faire notamment du commerce de bois d'ébène, c'est-à-dire de la traite négrière, puis passait le cap, allait vers l'océan Indien, ravageant les côtes de... Alors jusqu'à Malabar, etc., et Madagascar, et bien donc bien plus haut. Et puis, vous aviez une autre forme de piraterie qui est plus loin, mais alors qui est du monde oriental, on verra tout à l'heure. Donc, Alors, pourquoi on est pirate ? Pour le butin. La société peut être organisée pour la quête du pirate, pour la quête du butin. Il y a des mobiles économiques, la pauvreté. Il y a la misère, la disparition de ressources naturelles, il y a la distorsion des fois entre les ressources et puis le nombre de la population, il y a les inégalités économiques et sociales, ça peut être un exutoire, c'est un palliatif à des crises. Il y a eu des guerres privées qui ont été menées par des pirates, mais aussi il y a des mobiles politiques, dont j'ai dit des rebelles, des rébellions, contre les pouvoirs établis ou qui ont résisté à des entreprises coloniales. Par exemple, prenons le cas de Koxinga, qui est un Chinois qui était favorable aux Ming, et quand sont arrivés les Mandchous, eh bien, il a résisté aux Ming pendant plusieurs décennies, et finalement, il a pris l'île de Taïwan, chassant les Hollandais. Les Hollandais l'ont qualifié de roi des pirates. alors que maintenant, eh bien, pour à Taïwan, c'est un héros national. Vous voyez, donc on peut être héros comme on peut être pirate, tout dépend de là où on regarde. Et surtout, tout dépend, en fin de compte, le pirate, c'est souvent l'autre, c'est-à-dire celui contre lequel on est. Alors il y a des mobiles religieux, on a pratiqué le djihad en Méditerranée, on avait une contre-course qui était par l'ordre de Malte, ils pratiquaient aussi la piraterie, puisqu'il y avait toujours des affaires délictueuses. Et puis, il y a évidemment des mobiles privés, la liberté, l'aventure, l'appel du large, d'où le discours libertaire qui entoure souvent la piraterie. Quand, je vous ai dit, poussée démographique, accroissement des trafics maritimes en volume, en valeur, allongement des itinéraires qui donnent de plus d'opportunités, il y a les guerres entre les États qui évidemment font qu'on peut jouer la criminalité contre les autres, il y a les instrumentalisations, à l'époque hellénistique, eh bien, les États ne se déclaraient pas la guerre mais pratiquaient la piraterie pour finalement mener cette guerre, il y a les guerres de conquête, il y a les guerres civiles, il y a les périodes de bouleversement économique et sociaux, et puis il y a la défaillance de l'État. Pour la Somalie, on parle d'État failli, attention, c'est vrai, mais ça peut être aussi une espèce de soupape de sécurité pour certains États qui finalement imposent tellement, c'est par exemple dans le cas de la Chine des Ming, et ça va développer par exemple les Wako, c'est-à-dire tout simplement l'État qui interdit d'aller en haute mer, donc ils finissent par provoquer une réaction d'autorités locales et de gens qui finalement pratiquent quand même le commerce de haute mer contre l'avis du pouvoir central. Et puis, il peut y avoir la disparition évidemment d'un gendarme maritime. La grande caractéristique de la piraterie, c'est quelles que soient les époques, c'est le même type de guerre, c'est-à-dire c'est guérilla. Guérilla, avec le modus operandi est extrêmement stable, c'est à main armée, c'est extrêmement brutal, on détourne des navires, on prend des otages pour rançonner, il y a des abordages, en général ce sont des attaques furtives, très téméraires, il faut bien le dire, les pirates sont souvent très courageux, avec une violence des fois très cruelle aussi, car en mer, eh bien, il n'y a plus de règles en quelque sorte. Et on a pratiqué la ruse, on peut aussi pratiquer la saturation, une espèce de guerre psychologique, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, on hisse le drapeau noir, c'est-à-dire ça veut dire ou rouge, pas de quartier, si vous résistez, vous serez tous tués, ce qui fait que les gens ne se défendent pas, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. C'est toujours la même chose, matériel naval, généralement léger, rapide, à faible terrain d'eau, parce qu'il faut qu'ils échappent aux grands navires de guerre, et on a toutes les sortes, selon les régions, des jonques, etc. Et le tout doit être évidemment adapté aux conditions de navigation, ce qui fait que maintenant, ils se sont tellement bien habitués, car Les pirates, en fin de compte, sont toujours à la pointe de la technique parce qu'il faut toujours qu'ils aient une pointe d'avance et surtout qu'ils puissent faire en sorte de surprendre leur adversaire. Donc, ils acquièrent des renseignements dans les ports. Hein, ils ont des organisations internes qui sont comme dans la vie maritime, c'est-à-dire avec des chasse-parties, élection du capitaine, etc. Et il leur faut des bases de soutien, donc pour le vivre, les eaux, l'eau, etc. Et ils doivent avoir automatiquement pas de piraterie s'il n'y a pas de réseau. Il y a toujours un réseau. C'est-à-dire, il faut, une fois que vous avez du butin, il faut pouvoir faire en sorte que le butin puisse être, on puisse obtenir des richesses supplémentaires, on puisse revendre, par exemple, s'ils prennent un bâtiment sur lequel il y a du blé, il faut bien le revendre. Et c'est pourquoi la piraterie demande toujours des complicités au sein des États, ou en tout cas des entités administratives ou politiques le long des côtes. Donc, il y a toujours un lien aussi avec les autres trafics, c'est ce qu'on appelle le commerce au bout de la pique, c'est-à-dire avec la contrebande, avec le commerce d'esclaves, avec l'immigration clandestine, avec le commerce d'armes, avec la drogue, etc. Voilà, donc on a ce genre de tactique toujours, et la lutte anti-piraterie, je m'arrêterai là, la réaction est toujours la même, au bout d'un moment, les États réagissent, alors il y a le droit, hein, parce qu'on finit par imposer le droit. S'il n'y a pas le droit, et ben, en fin de compte, s'il n'y a pas le droit et s'il n'y a pas d'autorité pour l'appliquer, eh bien, il n'y a pas de piraterie non plus. Hein. Donc ça, c'est clair. À partir du XIVe siècle, on a pratiqué l'assurance, on a pratiqué la navigation donc en convoi avec armée, on a armé les bâtiments de commerce. C'est toujours la même histoire, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on faisait dans le temps passé. Et surtout, la piraterie a disparu dans certaines zones et très importantes de ces zones, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, avec l'apparition des flottes de guerre permanentes. Jusqu'au XVIIe siècle, les États européens n'avaient pas de flotte de guerre permanente. Donc, tant qu'il n'y avait pas, donc il n'y avait pas possibilité de lutter contre la piraterie. Et après, on a organisé des escadres anti-piraterie. Et dès que les États se mettent d'accord entre eux et qu'il y a, comme on voit maintenant, par exemple, pour la Somalie, eh bien, la piraterie automatiquement baisse et disparaît. Les pirates, c'est une criminalité qui ne disparaîtra jamais, parce que la piraterie, enfin, c'est une criminalité. Elle est en mer et il n'y a pas de criminalité à terre qui disparaît. Mais il y aura tout, ce sera toujours des moments courts. Il n'y a pas d'âge d'or dans la piraterie. Ça n'existe pas.
Merci Michel Battesti. Alors plusieurs choses à retenir de ce que vous venez de dire. La réaction des États, je pense que c'est avec Michel Delbecq qu'on pourra voir cela. Réaction des États et puis une organisation internationale, en tout cas donc une criminalité qui ne disparaîtra jamais. Des modus operandi ou un modus operandi particulièrement brutal, très violent et la nécessité d'un réseau. Il faut beaucoup de complicité. C'est vrai que la piraterie, ça n'est pas un acte solitaire. Alors il y a un organisme, peut-être ils sont plusieurs, mais en tout cas un parmi d'autres qui s'occupe de recenser les actes de piraterie, c'est le Bureau maritime international. Pour l'année 2016, il relève, ce Bureau maritime international, que les actes de piraterie sont en baisse. Il en a recensé 191. Mais en revanche, une caractéristique aujourd'hui, c'est un très fort développement. Le plus fort développement jamais enregistré en 10 ans, des kidnappings. Alors ça, on verra avec vous particulièrement, Jérôme Michelet, parce que vous avez été, vous avez œuvré à la libération, et vous nous en parlerez plus en détail tout à l'heure, d'un équipage qui a été pris, qui a été abandonné et pris en otage pendant 4 ans. Mais d'abord avec vous, Éric Frécon, peut-être voir un petit peu les zones qui aujourd'hui sont les plus concernées par les actes de piraterie. Une région que vous connaissez bien, l'Asie du Sud-Est. Vous avez d'ailleurs, je le disais en introduction, écrit un ouvrage qui s'intitule « Le pavillon noir sur l'Asie du Sud-Est, histoire d'une résurgence de la piraterie maritime ». Où en est-on aujourd'hui dans ce coin du monde ?
Merci, et merci pour la carte. Il y avait eu « Chez les pirates d'Indonésie », c'était plus récent et meilleur que le premier livre, œuvre de jeunesse. Mais non, alors sur l'Asie du Sud-Est, effectivement, qui n'est pas inintéressante, puisqu'on est quand même au carrefour entre toute l'Asie du Nord-Est, les usines de Chine et les marchés européens, voire les sources d'approvisionnement énergétique dans le Golfe Persique. Et donc tout passe, ou une bonne partie du commerce mondial, par l'Asie du Sud-Est. Et il se trouve qu'on a en Indonésie, le pays le plus touché par la piraterie, qui avait été éclipsé par l'Afrique orientale à une période. Mais là, c'est toujours l'Indonésie. Alors, il y a le Nigeria, effectivement, on en parlera plus tard. Mais après, il y a le quantitatif, le qualitatif. Il se trouve qu'en Indonésie, c'est beaucoup plus d'attaques réussies. Si on distingue les attaques tentées, les attaques réussies, le taux de réussite. En revanche, c'est plus d'attaques aussi dans les ports, moins contre les navires en train de naviguer au large des côtes. C'est en baisse actuellement, mais donc toujours en première place. Et alors, qui sont ces pirates ? Souvent, moi, j'ai pour habitude de distinguer pour faire simple, mais ça rejoint effectivement les questions de définition, le pirate des villes, le pirate des champs. Le pirate des champs ou le pirate des kampungs, le pirate des mangroves, c'est celui qui se livrera plus au banditisme maritime, ce que l'Organisation maritime internationale appelle le banditisme maritime, donc dans les eaux territoriales, puisque ce n'est pas couvert par la convention de Montego Bay. Ce sont des pêcheurs qui sont là depuis tout le temps, et il se trouve que là, il y a maintenant des bateaux qui leur passent sous le nez. Ils ont bien compris qu'ils pouvaient arrondir leur fin de mois, que ce n'était pas très compliqué. Ce sont des attaques souvent très opportunistes. Il n'y a pas de lune, la mer n'est pas agitée, on a un sampan sous la main, on a pu rajouter un deuxième moteur pour gagner en furtivité, rapidité. Donc on retrouve là les grands classiques qui étaient expliqués juste avant. Et c'est ce qui fait exploser les chiffres de la piraterie, même si c'est que du petit banditisme, avec un impact psychologique peut-être pour les personnes attaquées, mais sur le commerce mondial... Peu important. On en parlait tout à l'heure, par exemple, là, vous voyez, la pire année dans le détroit de Malacca, mais c'était la pire, c'était en 2000, il y avait eu 75 attaques, mais c'était vraiment la pire année. Hein. Et on ne s'est pas évalué, mais on a, disons qu'on est 75 000 bateaux par an qui passent dans le détroit de Malacca, on ne sait pas, c'est peut-être un peu au-dessus, au-dessous, mais on n'en est pas loin. Bon, bah, vous voyez, vous faites le ratio, on est à 0,1. Donc, ce n'est pas vraiment impactant.
Le détroit de Malacca, juste peut-être qu'on peut un peu décrire.
Alors, qui est pour aller de l'Asie, de l'Inde à la Chine, vous voyez, vous allez passer bah, là où il y a toutes les attaques de pirates, en fait, au large de Singapour, entre Sumatra et la Malaisie, la Manche, qui est une des artères. Principale du commerce maritime
et
aujourd'hui.
Et une des raisons pour lesquelles c'est aussi facile, entre guillemets, de procéder à des actes de piraterie, c'est que les bateaux vont à une vitesse particulièrement réduite, que le détroit, comme son nom l'indique, fait que les rives sont jouantes. Enfin,
oui, c'est peu profond et par moment.
Il y a toute une atmosphère qui rend propice.
Moi, souvent, je prenais l'image du canyon de Lucky Luke, quoi, voyez, puis il n'y a qu'à attendre, et puis on se place dans la mangrove, et il n'y a que. Se précipiter sur les bateaux. On me faisait remarquer qu'il faut au moins une nuit pour passer le détroit de Malacca. Et donc, à la différence d'autres pirates, par exemple, dans les Sulu, où là, on est un peu plus à l'est, vers les Philippines, là, on attaque généralement de nuit. Alors, ces pirates-là, pour se donner confiance, par exemple, n'hésitent pas à solliciter les sorciers locaux pour... Alors, ils m'avaient montré, à force d'eau magique, rendre leur bateau invisible avec les balles de policiers qui leur transpercent le corps sans les toucher. Bon, mais ça, c'est, comme on le disait, c'est parce que ça demande un certain courage et ils ont besoin de s'auto-convaincre. Ça, c'est un type de piraterie. Ensuite, on a le pirate des villes. Qui lui sera dans les mêmes zones, dans les zones franches d'Indonésie, là où vous avez une multitude de jeunes qui sont venus de leur campagne dans cette zone franche en se disant il y a des usines, j'aurai peut-être du travail, etc. Mais certains, ça fait 10-15 ans maintenant qu'ils attendent du travail, ils croupissent dans des bidonvilles et finalement ils vont prendre là où le travail se trouve. Et donc on les voit, il y a des endroits, des cafés d'ailleurs, très bien localisés, où ils tuent le temps. Et puis après, il va y avoir on peut presque là, pour le coup, parler de parrain, de grande criminalité. Quelqu'un qui va avoir d'un informateur dans une compagnie maritime, par exemple, à Singapour. Tiens, il y a tel bateau, telle date. Est-ce que tu es intéressé? Le parrain réfléchit à deux fois. Bon, on me racontait que parfois, même, il regardait les prix du pétrole, parce que s'il faut qu'il le revende, bon, autant que le bénéfice soit plus important. Et puis après, il dit, allez... On y va. Et donc, il va passer par ses recruteurs. Dis donc, il me faudrait 15 pirates pour le 25. Bah, écoute, t'inquiète pas, je t'arrange ça. Et alors, on retourne dans nos petits cafés. Qui est libre le 25? Bah, écoutez, pourquoi pas? Moi, je viens. Okay, bon, bah, ceux qui sont intéressés, rendez-vous dans tel hôtel de ces zones franches. Hein. Alors, il se trouve que, hasard de la recherche, c'était là où je l'ai. Mais petits hôtels de passe, quoi. Mais donc, c'est là où les pirates se retrouvent. Ils attendent que tout le monde soit réuni. Le parrain va faire apporter une enveloppe de cash pour acheter le pétrole, pour louer un sampan, éventuellement louer des armes à feu, parce qu'à la différence de Golfe de Guinée, Afrique orientale, c'est rare, quoi. C'est pas la norme, en tout cas, d'avoir des armes à feu. Et puis après, ils vont partir attaquer le bateau, selon les principes habituels, souvent par l'arrière. Ce qui sert de corde va servir de grappin pour monter. Il y en a un qui reste sur le bateau pour maintenir la vitesse. Et puis après, c'est la surprise. Eux-mêmes, pour les avoir vus en quelque sorte à l'entraînement, ils sont un peu gauches, ils sont parfois pas très à l'aise. Mais bon, là,
pas très professionnels, c'est ça qu'il faut entendre aussi.
Ben, presque, ouais. Et moi, il y en avait, c'est des paysans qui venaient de leur montagne. Donc, ils n'avaient pas forcément le pied marin, même savoir nager, c'était pas toujours naturel. Mais ça, je parle pour le pirate des villes qui, lui, attendait son boulot, qui n'est jamais venu. Et donc, ils attaquent le bateau. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, généralement, il y a un changement d'équipage. C'est-à-dire, les pirates vont quitter le navire. Et là, il y a un autre équipage qui rentre en scène, qui, lui, prend en main le bateau, parce que ce bateau, il va falloir l'emmener dans un port illégal, informel, à l'abri, pour pouvoir procéder soit au siphonnage, soit à la revente de containers et autres. Donc ça demande une certaine logistique, et c'est pour ça que là, pour le coup, voilà, plus la piraterie des villes par rapport aux pirates des champs. Alors voilà à peu près le paysage pirate auquel il faut rajouter depuis peu, parce qu'on parlera pour les statistiques, etc., mais tout dépend où on met le focus et le zoom, hein, ils ont toujours été là, mais il se trouve que là c'est le sujet d'attention par exemple d'un centre comme l'Information Fusion Center à Singapour, avec, qui réunit des officiers de différentes marines, des officiers de liaison. Et là, donc, c'est maintenant le sud des Philippines, Abu Sayyaf, qui est un groupe, qui n'est pas un groupe d'ailleurs, qui est quatre factions, et chaque faction divisée en 20-30 familles. Donc quand on parle d'Abu Sayyaf comme d'un bloc monolithique, il y a de la marge. Et qui se livre à la fois au terrorisme, à la fois au banditisme. Et en fait, ce qui se passerait la plupart du temps, c'est que vous avez des petits groupes de bandits qui, eux, kidnappent, et qui après en réfère à Abu Sayyaf, tiens, est-ce que ça vous intéresse, j'ai un otage, et après Abu Sayyaf va pouvoir éventuellement procéder à la négociation. Et il se trouve, alors est-ce que c'est les chiffres ou est-ce que c'est simplement parce qu'on s'y intéresse qu'effectivement c'est en hausse, mais si vous voulez, moi des pirates je peux vous en trouver demain, on va à Sumatra, il y a des zones qui ne sont pas couvertes par le spectre, par le BMI, parce que c'est en dehors des routes marchandes, des gros containers et autres, porte-containers, mais...
Est-ce que le lien entre piraterie et terrorisme est avéré
dans le détroit de Malacca, je m'étais battu contre ça. C'était à une époque où, alors là, il faut un peu, si je peux me permettre de dézoomer, vous aviez dans la chronologie, vous aviez Hu Jintao qui parlait du dilemme de Malacca pour la Chine, c'est-à-dire tout notre commerce passe par là, on en a besoin. Et juste après, un amiral américain qui était allé aux États-Unis là, au Congrès, il commandait la flotte du Pacifique, en disant, tiens, il faudrait qu'on envoie patrouiller des Marines dans le détroit de Malacca. Et donc après, il fallait quand même alimenter tout ça. Et vous aviez un chercheur slash journaliste, slash, disons que quand moi j'avais voulu interroger les diplomates américains, on m'avait renvoyé vers ce chercheur. Donc vous voyez, c'était et qui lui était là à vendre le terrorisme, mais à gratter, c'est deux choses totalement différentes, parce que le pirate cherche la discrétion, le terroriste le coup d'éclat, et le pirate il y réfléchit à deux fois. Si on fait un coup d'accord, mais après ça veut dire qu'il y aura des patrouilles, etc. Et sans mauvais jeu de mots, moi mon business il tombe à l'eau parce que je pourrais plus pratiquer ma piraterie, sans compter qu'ils sont pas dans la même démarche du martyr, etc., que les djihadistes. Mais après, vous avez maintenant dans les Soulous, c'est plus compliqué, parce qu'Abu Sayyaf, c'est une nature vraiment complexe. Alors oui, Abu Sayyaf, il y a un agenda un peu autonomie, sécession, etc., mais c'est surtout du banditisme. C'est tellement, pour en avoir discuté avec un repenti de la Jemaah Islamiyah, qui était le grand groupe terroriste des années 2000 dans la région, je lui avais posé la question, et il m'avait dit, c'est tellement plus simple, un sac de sport rempli d'explosifs dans un pub où il n'y a que des Australiens, c'est plus simple, j'ai plus d'impact médiatique, qu'est-ce que j'allais me fatiguer à faire une bombe flottante dont on ne sait même pas si elle va exploser, et si elle explose, ça sera loin du centre-ville, donc des médias. Voilà.
Et partir parfois à 1500 km des côtes, puisqu'on parlait de la haute mer, pour des opérations de piraterie, donc c'est vraiment partir très loin, alors que, voilà, juste pour, oui. Pour comprendre la distinction qu'on peut faire et peut-être
ah oui, entre pirates et terrorisme. Et puis c'est les motifs privés, motifs politiques qui font la différence.
Alors il y a beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Les chiffres que je donnais tout à l'heure du Bureau Maritime International, 191 incidents de piraterie durant l'année 2016. Quelle est la réalité de ces chiffres? Et je me tourne vers vous, Jérôme Michelet. Je rappelle donc que vous êtes ancien officier de marine et membre de l'organisation non gouvernementale américaine One Earth Future. Vous connaissez bien le cas de la Somalie, l'Afrique plus généralement, le golfe de Guinée. Plusieurs questions en une. Vous avez aussi œuvré à la libération des marins du Naham 3 que je citais tout à l'heure en introduction, une affaire qui a révélé les contextes particulièrement sordides des équipages, de bateaux parfois très, très vieux avec des marins peu voire pas payés, et ceux-là sont restés 4 ans entre les mains de leurs ravisseurs. Le cas de la Somalie, il est connu? Où est-ce qu'on en est de la Somalie aujourd'hui? Je reviens peut-être au début de ma question. Les chiffres du Bureau Maritime International, quelle réalité ont-ils?
Donc on va prendre les questions dans l'ordre. Le Bureau Maritime International publie les statistiques des données qui lui sont apportées par les navires eux-mêmes. Les capitaines des navires communiquent en cas d'attaque au Bureau Maritime International le fait qu'ils ont été attaqués. Et le BMI, ensuite, comptabilise toutes les attaques, quelle que soit la distance des côtes, donc que par définition légale, ça s'appelle de la piraterie ou du brigandage maritime quand c'est proche des côtes, voire même, dans certains cas, des attaques à quai, sont comptabilisées, tout mis dans le même sac, de la piraterie. Il comptabilise également une attaque qui consiste, de temps en temps, comme l'évoquait Eric Frécon, des pirates qui sont juste des pêcheurs locaux qui montent nuitamment à bord d'un navire à l'ancre, qui essayent de dérober quelques objets, bon, de valeur importante, certes, mais ça n'a rien à voir avec un acte où on capture des otages pour les rançonner ensuite, en les ayant torturés entre-temps. Donc tout ça, c'est encore mis dans le même sac. Mais inversement, le BMI ne comptabilise que les actes qu'on lui rapporte. Et il y a beaucoup d'actes qui ne sont jamais indiqués au BMI parce que les armateurs hésitent à déclarer une attaque si le coût des marchandises dérobées est inférieur au surcoût de l'assurance. Un petit peu comme si on a une éraflure sur la voiture, on ne va pas déclarer ça à l'assureur. C'est exactement pareil ce qui se passe sur mer. Et donc il y a beaucoup d'attaques qui ont lieu, soit qui échouent, et en ces cas-là, pourquoi s'embêter à déclarer à l'assureur ? On aura juste les tracasseries administratives de déclarer à la police, et il y a beaucoup d'armateurs qui aimeraient l'éviter. Ou bien s'il y a peu qui est dérobé, on ne le déclare pas. Et ce qui fait qu'en fin de compte, il n'y a pratiquement que les attaques réussies qui sont déclarées. Et c'est une des raisons qui peut expliquer très facilement pourquoi, en Asie du Sud-Est, on a une proportion si importante d'attaques réussies. C'est simplement que celles qui ne sont pas réussies ne sont pas déclarées. Donc, pour aller sur la deuxième... Ah oui, et le BMI, notamment, j'ai noté dans son rapport, il déplore quelques blessés, mais pas un seul mort. Si on creuse un peu, on a trouvé plus de 20 morts dus aux pirates l'an dernier. Le BMI n'en a vu zéro. Donc, vous voyez qu'entre les chiffres du BMI et la réalité, quand on creuse un petit peu et qu'on va chercher un petit peu plus l'information, on peut trouver d'immenses différences.
Alors, la question des prises d'otages, je l'évoquais tout à l'heure, en 2016, il y a une recrudescence des prises d'otages. Ça peut permettre peut-être d'évoquer cette question du NAM 3, Jérôme Michelet. Est-ce qu'il y a une politique des pays en termes de rançon ? Est-ce qu'il y a les payeurs, les non-payeurs, comme pour les actes de terrorisme, finalement ?
Alors, il y a effectivement des États qui déclarent, qui interdisent à leurs ressortissants de payer la moindre rançon. Les États-Unis sont un exemple.
Donc la même politique sur terre que sur mer, finalement.
Oui. Mais en pratique, c'est inhumain d'empêcher des familles de rassembler une certaine somme d'argent pour libérer leur autre être proche. Alors que, faut bien se rendre compte, les familles reçoivent des coups de téléphone avec leur mari, leur fils, au bout du fil, qui crie de douleur en recevant des coups, qui vient de recevoir une menace d'exécution. Et ça, c'est évidemment très, très fort pour les familles. C'est une tactique délibérée des pirates pour inciter, évidemment, les familles à payer la rançon. Alors, certains États partent du principe que si on commence à payer, on ne sait plus où ça s'arrête, et l'interdisent. Mais en pratique, c'est un peu difficile.
L'affaire du NAM 3.
Alors le NAM 3, c'est un navire qui a été capturé par les pirates somaliens il y a 4 ans et 8 mois. Et à une époque où beaucoup de navires étaient capturés, à cette époque, on arrivait à 200 navires capturés chaque année. 200. La plupart de ces navires étaient retenus pendant quelques mois le long des côtes somaliennes, et les armateurs avaient mis de côté de quoi payer une rançon par l'intermédiaire d'une assurance qui est tout à fait admise comme pratique. Il y a une assurance pour payer les rançons quand on passe dans les zones de piraterie. Donc pour la plupart des navires, au bout de quelques mois de négociations, de plus en plus laborieuse au fur et à mesure que la piraterie se développait et que les pirates devenaient de plus en plus gourmands, mais on finissait toujours par trouver un arrangement. Mais certains armateurs ont fini par estimer que ça revenait trop cher et que le plus simple, c'était d'abandonner leur équipage à leur sort. Et c'était le cas pour l'équipage du Naham 3. Donc on avait 29 personnes sur un bateau de pêche qui a été capturé à 300 000 marins, c'est-à-dire 450 km de la Somalie, des distances considérables. Ils ont été ramenés au large de la Somalie, tout près des côtes, et ils ont attendu, et personne ne s'occupait d'eux. Au bout d'un certain temps, la lutte contre la piraterie somalienne a suffisamment été efficace pour qu'il n'y ait plus de navires capturés. Donc progressivement, tous les navires qui étaient retenus ont fini par être libérés, sauf quelques équipages qui sont restés oubliés. C'est à ce moment-là que mon organisation Oceans Beyond Piracy a pris la relève et a cherché à contacter les clans dont sont originaires les pirates pour leur expliquer que personne n'allait s'occuper des quelques équipages restants et qu'il fallait quand même les relâcher pour des motifs humanitaires. Alors ça n'a pas été simple de convaincre les pirates d'avoir un peu d'humanité et de relâcher les équipages. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps.
Et le deal s'est fait sur quelque chose de particulier? Quel a été l'élément déclencheur qui leur a fait prendre conscience finalement que cette situation ne pouvait pas durer?
Ça a été la pression sur les chefs de clan dont étaient originaires les pirates eux-mêmes et qui ont fini par convaincre leurs cousins qu'il fallait quand même cesser de rêver à une rançon qui n'arriverait jamais et qu'il y avait donc des Occidentaux qui étaient prêts à récupérer les pirates et que c'était finalement plus simple pour eux que de continuer à devoir les protéger contre d'éventuelles attaques d'autres clans et enfin les libérer. Donc quand ils ont été libérés, on s'est aperçu qu'ils étaient tous, alors tous ceux qui restaient, il y en a trois qui sont morts, les survivants étaient tous très mal nourris. Pendant 4 ans, ils avaient tous perdu l'essentiel de leur poids. Donc, vous imaginez des gens sortant d'Auschwitz qui sortent de là. La moitié avait des graves problèmes de santé. Un s'était pris une balle dans le pied. Donc, il était quand même urgent de les soigner. Ils ont pu tous être rapatriés. Et là, maintenant, ils ont des difficultés parce que leur armateur, évidemment, ne leur a pas payé le moindre salaire pendant les 4 ans et 7 mois de captivité. Avec tous les problèmes psychologiques que vous pouvez imaginer. Donc c'est ça, la piraterie.
Où est-ce que la Somalie en est aujourd'hui en termes de piraterie? Et on va poursuivre la côte africaine en la prenant vers la gauche, vers l'ouest. Le golfe de Guinée, et quelques mots peut-être sur cette réunion qui s'est tenue en octobre dernier à Lomé, au Togo, qui a vu l'Union africaine commencer de se mobiliser sur cette question. Il est vrai qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont concernés par les questions de piraterie, qui ont en tout cas une frange littorale plus ou moins grande selon les pays.
Pour la Somalie, dans les années 2000, la piraterie somalienne était à un niveau très bas. C'était essentiellement des pêcheurs le jour, un peu trafiquants, contrebandiers la nuit, et quelques-uns ont saisi des occasions qui se présentaient, du type voilier très bas sur l'eau, très lent, très facile à capturer, plein de riches occidentaux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient en obtenir des rançons. Donc progressivement, ils ont accumulé du capital. Avec le capital, ils ont pu acheter des moteurs plus puissants. Comme les voiliers se faisaient rares, ils ont pu acheter des échelles que vous avez pu voir sur une photo tout à l'heure. Ils se sont organisés un petit peu mieux. Ils se sont mis en lien avec la criminalité organisée internationale. Et donc progressivement, ils ont acquis une technicité et sont devenus des pirates professionnels. Face à cela, quelle a été la réaction de la communauté internationale? Il était impossible de demander à la Somalie, qui était dans le chaos total, de traiter ses propres pirates. Il a fallu donc que la communauté internationale intervienne avec une coalition qui est venue de l'Union européenne avec Opération Atalanta, une deuxième coalition qui était déjà sur place à lutter contre le terrorisme, lutter contre les mouvements de Ben Laden, qui est la Combined Maritime Force basée à Bahreïn, et une troisième coalition qui a été l'OTAN, qui est intervenue. Donc trois coalitions qui se sont alliées dans le golfe d'Aden, plus énormément de déploiements indépendants de la part des Chinois, des Russes, des Indiens, des Japonais, des Coréens et d'autres nationalités. Et ce qui est extraordinaire et que, en fait, les pirates somaliens ont réussi à faire quelque chose d'impensable, c'est d'avoir une même table de négociation, les Américains, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Saoudiens, les Japonais, les Coréens, tous ensemble, unis contre une cause commune. Et c'est un mécanisme et un lieu de rassemblement qu'on appelle SHADE, qui, bon, c'est un acronyme, qui actuellement subsiste encore et qu'on cherche à préserver justement pour cette capacité unique à fédérer tous les efforts. Mais ça, ça n'a pas suffi. Malgré toutes ces coalitions et tous ces efforts, les pirates continuaient à capturer, donc je vous ai dit, jusqu'à 200 navires par an. En parallèle, les navires de commerce se sont protégés eux-mêmes. Ils ont pris l'habitude de mettre des barbelés. Ils ont pris l'habitude de prendre à bord des armes et des gardes pour se protéger. Mais ce qui a nécessité un changement des lois de chacun des pavillons représentés qui passaient par là. Mais même ça, ça n'a pas suffi. Il a fallu que les navires de guerre finissent par capturer les pirates, les envoient pour se faire juger. Alors au début, ils étaient jugés dans les pays occidentaux. On s'est rendu compte que ça coûtait horriblement cher. Donc il y a eu des accords avec les Seychelles, le Kenya, l'île Maurice, pour qu'ils soient jugés dans l'océan Indien. Et ensuite, des prisons ont été construites en Somalie, où plusieurs milliers de pirates purgent encore leur peine. Les premiers sortent maintenant.
Jérôme Michelet, à une époque, la France était le pays qui avait le plus de prisonniers pirates au monde. Il y a quelques années, il n'y en a plus un aujourd'hui dans les prisons françaises.
Non, je ne sais pas où en est la situation des pirates en France. Il y en a très peu, en fait, comparé aux milliers qu'il y a en Somalie, aux centaines qu'il peut y avoir en Inde. Il y a d'autres pays qui en ont capturé beaucoup plus que la France. En fait, on en a eu beaucoup au début parce qu'on a eu plusieurs incidents de piraterie qui étaient très précoces. Et depuis, on a eu la chance de ne plus en avoir.
La situation dans le golfe de Guinée, et après ça, on partira rapidement en Amérique latine, où la côte pacifique, au large du Pérou notamment, est également affectée par des actes de piraterie. Jérôme Michelet.
Alors, dans le golfe de Guinée, la piraterie est également endémique depuis des décennies. Enfin, j'ai toujours entendu parler de piraterie, mais ponctuelle, près des ports principaux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et le même phénomène qu'on a connu en Asie du Sud-Est et en Somalie s'est produit, hélas, dans le golfe de Guinée. Les pirates, à force d'accumuler un petit peu de capital, à force de s'entraîner sur des navires au début faciles, ont réussi à avoir des embarcations qui pouvaient les amener plus loin au large de l'océan, ont réussi à créer des organisations criminelles capables de récupérer, enfin de donner rendez-vous entre un navire qui venait de se faire capturer et un autre navire citerne pour pomper du pétrole et revendre ensuite le pétrole au marché noir. Donc une opération qui est quand même complexe. Ils arrivent à le faire. Et avec des armements de plus en plus importants et une grande violence notamment. Donc là, pour lutter contre cette piraterie dans le golfe de Guinée, par contre, la situation est extrêmement différente de la Somalie parce que les États africains sont des États qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui fonctionnent. Et on n'a pas le droit d'intervenir dans les eaux des États côtiers. Il leur revient donc à eux-mêmes d'assurer la protection du commerce international qui les concerne d'ailleurs directement. Et c'est donc une énorme différence par rapport à l'océan Indien, puisque les forces internationales ne peuvent pas intervenir, mais inversement, on a vu des initiatives de la part des États de la région, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre ont fédéré leurs efforts avec un mécanisme qu'on appelle le code de conduite de Yaoundé, où ils ont décidé finalement de mettre toutes leurs eaux et toute leur flotte plus ou moins en commun pour lutter non seulement contre la piraterie, mais également contre tous les phénomènes de criminalité en mer, trafic de drogue, trafic de migrants, trafic d'armes, tout ce que vous pouvez imaginer, ils le mettent en commun. Et ça a été confirmé encore récemment au mois d'octobre, par une grande réunion qui, cette fois-ci, concerne l'ensemble de l'Afrique, à Lomé, qui a débouché sur une charte qui, pour l'instant, demande à être mise en application, mais qui donne un gros espoir, c'est que les eaux au large de tout autour de l'Afrique finissent par être un petit peu mieux policées que ce qu'on a actuellement. Pour revenir sur la fin de votre question, dans les Amériques, c'est un petit peu un stade plus archaïque, on va dire. On a constaté une très récente montée de la piraterie en Amérique du Sud, mais c'est plutôt de la piraterie sur les ports. Donc, ils en sont encore au stade, on va dire, artisanal. Ils n'ont pas encore accumulé le capital. Et dans les Caraïbes, c'est un petit peu différent. Ce sont les narcotrafiquants qui capturent des bateaux, parfois, hélas, en allant jusqu'à tuer l'équipage. Mais c'est en vue de trafiquer, enfin de faire leur trafic de drogue de l'Amérique du Sud vers les États-Unis.
Merci. En tout cas, j'ai bien noté qu'il y avait une organisation au niveau régional essentiellement, ou notamment, qui vient s'ajouter à ce que j'évoquais précédemment avec l'OTAN qui se mobilise. Vous évoquiez l'opération Atalanta. Peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, la piraterie, si on devait la résumer, une grande entreprise criminelle. Les questions qui se posent, c'est... qu'est-ce qu'elle rapporte à ses acteurs? Qu'est-ce qu'elle fait perdre à la communauté internationale? Ça me permet d'introduire votre propos, Philippe Delbecq, en rappelant que vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de la Chambre arbitrale maritime de Paris. Comment les navires se protègent-ils? Comment répartir les coûts entre armateurs et assureurs? Le coût des assurances, on le dit, élevé. Bref, comment s'organise la protection des uns et des autres face à la piraterie aujourd'hui?
Oui, merci. Je crois qu'il y a de nombreux aspects dans la piraterie, des aspects historiques, politiques, économiques, et puis naturellement des aspects juridiques. Et ce sont ces aspects juridiques qui nous intéressent maintenant. Alors, dans les aspects juridiques, il y a des questions de droit pénal qui se posent. Comment appréhender les pirates, comment les conduire jusque devant une juridiction, comment les juger. Et puis, il y a des questions qui sont plutôt des questions de droit commercial qui intéressent l'exploitation des navires et les relations entre les armateurs et les affréteurs et qui, naturellement, ont des conséquences en termes d'assurance. Alors, un mot d'abord, si vous voulez bien, sur les questions de droit pénal. On le disait tout à l'heure, Madame Battesti le disait, la piraterie c'est d'abord un crime même contre l'humanité. Et on a toujours considéré que la communauté internationale pouvait intervenir pour punir ce crime et pour punir dans les conditions les plus draconiennes les pirates. Alors si l'on s'en tient simplement au droit positif, au droit international positif et au droit national positif, bien, on voit que la piraterie est effectivement incriminée de manière très, très sévère. Dans la convention de Montego Bay, dans la convention de 1982, la convention sur le droit de la mer, dont on parlait en commençant, on trouve toute une série de règles juridiques assez précises sur la piraterie, sur la définition de la piraterie, sur la possibilité pour les États d'intervenir pour... appréhender les pirates et punir les pirates, et des dispositions sur la compétence des tribunaux. Donc il y a tout un arsenal juridique très important, très développé dans la Convention de Montego Bay, et qui permet aux États de se défendre. Étant entendu que la piraterie est un crime lorsque ce crime se réalise en haute mer, donc au-delà des eaux territoriales. Et cette piraterie est définie, c'est le fameux article 101 de la Convention de Montego Bay, c'est une définition précise, il faut être donc rigoureux en droit, c'est l'attaque à partir d'un navire contre un autre navire. Donc ce n'est pas n'importe quel comportement, la piraterie. Il faut qu'il y ait une attaque à partir d'un navire contre un autre navire, à des fins privées, à des fins purement, bassement matérielles, si j'ose dire, et non pas à des fins politiques, comme on le disait tout à l'heure. Donc si il y a une piraterie, les États, tous les États qui ont ratifié Montego Bay sont compétents pour intervenir et pour appréhender les pirates. Donc, on reconnaît donc la possibilité pour les États d'intervenir, d'arraisonner un navire pirate et d'appréhender les pirates. Et ensuite, la Convention de Montego Bay donne compétence à toutes les juridictions des États est parti à la Convention de Montego Bay pour juger les pirates. C'est une règle essentielle, c'est la règle de la compétence universelle, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc les États, quels qu'ils soient, ont une compétence pour juger les pirates, pour arrêter les pirates et pour juger les pirates dans leur propre juridiction nationale. Alors, ces dispositions, elles sont naturellement très intéressantes, mais encore faut-il que ces dispositions reçoivent une application concrète. La règle de la compétence universelle est une règle très généreuse et que l'on comprend parfaitement, mais encore faut-il que les États veuillent intervenir concrètement pour appréhender les pirates. Parce que si on appréhende les pirates, question qui se pose, qu'est-ce qu'on en fait?
Vous avez un exemple en tête?
Ben justement, le problème s'est posé pour les autorités françaises qui sont intervenues dans deux ou trois affaires, notamment l'affaire du Ponant, puis ensuite l'affaire du Carré d'As, où les autorités françaises, c'est-à-dire la Marine nationale française, est intervenue pour arrêter les pirates, puis ensuite pour transférer les pirates dans les prisons françaises et les faire juger par des juridictions françaises. Cependant, des problèmes juridiques se sont posés immédiatement, parce que les pirates ont été donc appréhendés par les commandants des navires français, mais il fallait les transférer. Le transfert, ça suppose un certain temps. Ensuite, il faut normalement présenter le pirate très rapidement devant une autorité judiciaire pour que les droits de la défense soient respectés. Voyez ? Alors, il y a eu des difficultés et précisément, la France s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme en considérant que, sans doute, la France pouvait intervenir pour arrêter les pirates, mais tous les droits de la défense, hein, je fais simple, hein, tous les droits de la défense n'avaient pas été respectés. Voyez, hein, donc c'est un problème. Un État peut intervenir, mais s'il intervient, il faut qu'il traite ensuite correctement, convenablement, les pirates, en respectant toutes les règles de procédure, naturellement, respectant les droits de la défense. Alors la France le fait, naturellement, mais bon, parfois on ne respecte pas toujours les délais, les gens ne sont pas là, donc il peut y avoir des problèmes. Mais d'autres États ne le font pas ou ne veulent pas le faire, justement, pour ne pas être exposés à des condamnations, à des problèmes juridiques. Hein, c'est un peu le monde à l'envers, voyez. Donc, alors c'est la raison pour laquelle, devant ce type de problème, le législateur français est intervenu d'une manière particulière pour prendre une loi spécifique, une loi de 2011, pour régler ces différentes questions. Et nous avons maintenant en France donc un arsenal juridique très précis, cette loi de 2011 qui permet donc aux autorités françaises, en respectant naturellement un certain nombre de conditions qui tiennent au droit de la défense, qui permettent aux autorités françaises d'arrêter les pirates et de les juger dans des conditions qui sont intéressantes pour les uns et pour les autres. Donc, il y a donc un arsenal juridique sur le plan international, mais ensuite un arsenal juridique très précis sur le plan national, cette fameuse loi de 2011 qui,
avec une peine criminelle,
maintenant, oui, avec
qui
des peines criminelles,
à 30 ans de réclusion,
oui,
peines, en cas de détournement de
navire. La piraterie en haute mer est incriminée, et étant entendu que la France également incrimine, mais d'une manière particulière, la piraterie qui peut intervenir dans ses eaux territoriales. Voyez, donc on incrimine en France la piraterie en haute mer sur la base donc de cette loi de 2011 et sur la base de textes plus spécifiques du code pénal si cette piraterie intervient dans les eaux territoriales.
Je vous redonne la parole dans deux petites minutes. Mmh. Jérôme Michelet souhaitait peut-être ajouter quelque chose, en tout cas faire un commentaire sur ce que vous venez de dire.
Oui, on a entendu la théorie du droit international qui permet à n'importe quel pays de se saisir de la piraterie. Malheureusement, en pratique, quand n'importe qui peut s'en servir, on se rend compte que personne n'a envie de le faire. Et on s'est retrouvé pendant quelques années en Somalie avec des pirates qui étaient capturés et personne ne voulait la patate chaude et on se la passait de l'un à l'autre et finalement on relâchait les pirates. On se retrouve dans le golfe de Guinée avec une explosion de la piraterie. Et aujourd'hui, le nombre total de pirates du golfe de Guinée qui ont été jugés se monte à zéro. Oui,
est-ce qu'il faudra un tribunal international, par exemple, Philippe Delbecq, et est-ce que c'est concevable?
Le tribunal international, si vous voulez, c'est très lourd, c'est complexe, ça coûte cher. Donc il faut être concret. Hein, donc il faut se doter d'armes juridiques précises. Hein. La France l'a fait maintenant pour que l'on puisse appréhender les pirates. Bon, dans des conditions si j'ose dire, dans des conditions qui sont très, très effectives, mais tout en respectant naturellement les droits fondamentaux. Alors, la France a une législation, mais de nombreux autres États n'ont aucune législation. Et peut-être aussi, de nombreux États ne veulent pas se doter d'une législation particulière pour ne pas avoir effectivement cette patate chaude entre les mains. Ça, c'est... Il y a les textes juridiques, mais ensuite, il y a l'application concrète. Alors, l'application concrète, elle soulève souvent des difficultés, mais maintenant, en France, il faut reconnaître que nous avons tout l'arsenal juridique et la marine nationale française intervient, et c'est sans doute parmi les différentes marines nationales au monde, la marine la plus efficace, avec la marine américaine.
Oui. Non, malheureusement, la marine américaine ne capture pas les pirates.
Oui, un peu moins, oui. Mais la France est certainement un pays qui est, on peut le dire, en pointe, particulièrement en pointe, dans l'appréhension des pirates et dans la gestion, si j'ose dire, de la piraterie sur le plan national et sur le plan international.
Alors, la question des coûts entre armateurs et assureurs et finalement la vie à bord des navires. Après ça, j'aimerais qu'on parle aussi de la piraterie de plaisance, parce que je pense que c'est un élément et un pan de cette piraterie qui est assez important et qui fait tout de même peur à ceux qui ont envie d'aller se promener en bateau, particulièrement dans les Antilles peut-être, et en Méditerranée.
Dans l'affaire du Ponant, le Ponant, c'est un magnifique bateau, navire de plaisance, vous savez, qui avait été rançonné là au large de la Somalie. Donc là, c'est effectivement, c'est une attaque contre un navire de plaisance important et bon, qui à l'époque était géré par la grande compagnie française CMA. Et donc c'est CMA qui a dû gérer avec la marine nationale française cet incident particulièrement regrettable. Alors il y a un autre point, et pour reprendre votre question, important, c'est de savoir comment les armateurs eux-mêmes peuvent se protéger contre les pirates. Est-ce que les armateurs peuvent, c'était évoqué à l'instant, est-ce que les armateurs peuvent équiper leur navire d'une manière particulière, et est-ce que les armateurs peuvent faire intervenir à bord de leur propre navire des gardes armés? Bon, alors, la réponse, a priori, sur un navire français, elle est négative, puisque sur un navire français, un navire qui bat pavillon français, c'est le droit français qui s'applique, c'est la loi du pavillon. Donc si le navire est français, la loi française s'applique. Et d'après le droit français, bien, vous et moi, une personne ou une autre, ne peut pas porter d'armes. Donc les gardes armés à bord, c'est en principe interdit. Alors, néanmoins, un certain nombre d'armateurs ont réclamé l'intervention des gardes armés. Dans certains États, des gardes armés intervenaient à bord des navires. Et les autorités françaises ont été sensibilisées par cette question. Et finalement, après de nombreuses discussions, en 2014, le 1er juillet 2014, une loi française donc, est intervenue pour autoriser expressément, avec toute une série de conditions, la présence de gardes armés à bord. Alors, nous avons maintenant une loi, donc une loi importante, une loi de 2014, qui permet aux armateurs de recruter des gardes armés. Les entreprises qui mettent à la disposition des armateurs des gardes armés, ce sont des entreprises qui doivent justifier de toute une série de conditions. Donc il y a un contrôle très efficace sur les personnels.
Et parmi les conditions, notamment, c'est la soumission au capitaine.
Oui, d'abord des conditions d'honorabilité, des conditions de compétence. Et de surcroît, effectivement, il est prévu que ces gardes armés restent sous l'autorité du capitaine. Donc... c'est le capitaine qui est toujours maître à bord, en principe, et qui a autorité sur ses gardes armés. Donc les gardes armés, en principe, ne peuvent pas ouvrir le feu sans l'autorisation du capitaine. C'est ce qui est prévu par la loi française. Donc la loi française a autorisé donc, ces gardes armés, mais tout en respectant un certain nombre de conditions. Yeah. Alors, il y a aujourd'hui, la loi française, elle est très bien respectée sur les navires français. Bon, aujourd'hui, les règles juridiques sont parfaitement observées. Il y a néanmoins des difficultés qui se sont posées pour d'autres États. Il y a une affaire importante, c'est l'affaire de l'Enrica Lexier, qui concerne un pétrolier italien et qui avait toute une série de gardes armés à bord et des fusiliers marins italien armé à bord de ce pétrolier. Ce pétrolier était au large de l'Inde, mais toujours dans la haute mer et non pas dans les eaux territoriales indiennes. Et ce pétrolier a été exposé à une difficulté parce qu'il y avait un petit navire qui arrivait à proximité de ce pétrolier, un navire indien, avec quelques pêcheurs sur ce navire. Et les fusiliers marins sur le pétrolier ont eu peur et ont cru qu'il y avait une attaque de pirates. Ces fusiliers alors, ont commencé à tirer. Ils ont donc n'ont blessé personne, mais le navire indien a chaviré et il y a eu donc toute une série de victimes. Et l'Inde, aujourd'hui, engage une action contre l'Italie en considérant que les fusiliers marins n'auraient pas dû intervenir dans ces conditions. Alors la question qui se pose est de savoir... Et c'est la question la plus importante de savoir quelle est la juridiction compétente. Est-ce que c'est la juridiction italienne qui est compétente pour juger les fusiliers marins? Si on va en Italie, bon, les fusiliers marins, sans doute, italiens ne seront pas tellement inquiétés. Mais si l'affaire est portée à la connaissance des autorités indiennes, des juridictions indiennes, on imagine que les solutions seront différentes. Donc il y a des questions juridiques très intéressantes, des questions de compétence qui se posent. Lorsqu'il y a une bavure, si j'ose dire, où il y a des actes bon, qui ne répondent pas aux conditions prévues par les textes et par les conventions internationales. Alors, cette affaire de l'Erinca, de l'Erinca Lexier, elle est en cours. Il y a un arbitrage international qui a été engagé. Et on verra quelle sera la juridiction compétente. Question qui est très, très intéressante au regard du droit de la mer.
Alors, pour vous faire revenir tous un débat entre vous, j'ai cette question. On dit beaucoup que les bateaux qui se font prendre sont des bâtiments qui prennent des risques. Est-ce que c'est exact, Michel Battesti?
Dans le cadre de la France et d'Opération Atalante, qui a été quand même initiée du côté français, avec l'Union européenne, qui a organisé cette opération. Je suis désolée, mais nous sommes intervenus pour 3 bateaux de plaisance. C'est-à-dire qu'on a mis en branle des marines de guerre pour 3 bateaux qui n'auraient pas dû se trouver là. Dans le cas, il y en a eu 2 qui ont vraiment été prévenus par les marins français, un militaire présent, que c'était une zone dangereuse. Et en mer, la mer, elle est ouverte, elle est libre. Mais... Les marins, enfin, ils étaient furieux, les militaires, parce qu'ils voyaient bien que, de toute façon, ces gens allaient avoir des problèmes. Et ils ont eu des problèmes. Il y a eu un skipper qui a été tué, alors par l'intervention d'ailleurs des fusiliers marins français. Il faut bien comprendre que le fusilier marin qui a tué ce skipper par accident, il a été ravagé. C'est, on ne tue pas un homme comme ça par hasard. Donc ils ont pris des risques. Et il faut bien le dire, la France a mis et l'Europe a mis un système vraiment en place là-dessus, alors que il faut le savoir, par exemple pour les thoniers seineurs qui sont sur ces côtes, eh bien il y avait à bord des marins français de la marine nationale des commandos qui protégeaient ces bâtiments. Il y a eu des attaques qui ont été avortées, mais il n'y a eu aucun thonier seineur qui a été pris. Enfin, il faut regarder les choses en face. D'ailleurs, aussi, tous les tankers, etc., qui passaient par cette zone, étaient protégés aussi par la marine nationale. Donc, là où il y a eu des problèmes, c'est vraiment pour la France. Dans le cas de... Ça a été des bâtiments de plaisance, où les gens auraient dû... En tout cas, moi, je crois des officiers qui, moi, m'ont dit, de marine, qui partiraient jamais en yacht sur les côtes somaliennes, ça va de soi, mais même sur les côtes américaines, parce que c'est extrêmement dangereux.
Étant entendu que la loi de 2014 dont je parlais, qui autorise donc la présence de gardes armés à bord, autorise la présence de gardes armés à bord uniquement sur les navires qui transportent des marchandises. Donc les navires de plaisance et les navires à passagers, ça pour des raisons de sécurité justement, ne peuvent pas avoir de gardes armés à bord.
J'ajouterais quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est les assureurs qui ont un rôle pédagogique. Parce que des réassureurs ou autres, moi je me souviens, j'étais en compagnie de l'un, et on lui téléphone pendant le déjeuner, on lui dit voilà, il y a des bâtiments qui vont passer, un bâtiment qui va passer par justement par Aden, et il a multiplié par 10 le prix de l'assurance. Eh bien, les gens ne sont pas passés par là. C'est-à-dire qu'il faut aussi, les assureurs, ça a été d'ailleurs un des systèmes qui a été mis en place depuis le XIIIe, XIVe siècle, les assureurs ont aussi leur nez là-dedans et ils disent oui ou non, pour certaines, ils ne couvrent pas tout simplement le risque.
Éric Frécon.
Non, mais effectivement, il y avait dans l'étroit de Malacca, il y avait eu l'étroit de Malacca qui avait été désigné zone de risque de guerre et ça avait posé problème. Et là, il y avait un lobbying actif de tous les Malaisiens, Singapouriens, Indonésiens pour dire non. Voilà. Mais le fait était que effectivement, c'était ça avait motivé justement, ça avait été un des déclencheurs pour toutes les mesures qui ont été prises ensuite, les patrouilles coordonnées dans l'étroit de Malacca, parce que justement, ils voulaient que ce statut cesse. Et maintenant, c'est leur crainte quand il y a deux ans un pic d'activité pirate juste au large de Singapour, à nouveau le chiffon rouge, et c'était ce qu'ils faisaient. Mais cela dit, pour ce qui est de la pédagogie et autres, il y a quand même plusieurs points d'information. Mais alors le problème, c'est que parfois, il y a aussi un peu embouteillage. Et je vois dans le détroit de Malacca, vous avez l'Information Fusion Center, géré par des marines, mais vous avez à quelques stations de métro, vous allez Récap, qui est là, qui est géré par plutôt des gardes-côtes et des polices et de la police. Et à Récap, vous n'aurez pas les Indonésiens et Malaisiens que vous aurez dans l'autre. Donc voilà, donc il y a un problème parfois de tuilage. Et si vous rajoutez là-dessus le Bureau Maritime International ou en tout cas son antenne de Kuala Lumpur, on se retrouve avec trois centres qui devraient être là pour fournir de l'information et donc alerter. Et quand on les sollicite, ils sont ravis de faire de l'accompagnement pour dire non, passez par là, ou alors attendez, on va s'arranger, plus le contrôle naval volontaire organisé par la Marine nationale. Donc il y a moyen quand même de... Mais effectivement, ça implique une organisation en amont et de respecter et de se contacter tous ces points d'information.
Jérôme Michelet.
Oui, je voudrais apporter un témoignage. Donc, on a eu malheureusement en France trois cas successifs avec le Ponant mentionné, le Caredas puis la Tanit, qui sont trois voiliers qui ont été capturés par les pirates en 2008-2009. Après, vous imaginez bien le traumatisme que ça a causé auprès des autorités de la Marine nationale. Et j'ai rencontré quelques années après un commandant de la frégate Floréal qui était en escale à Djibouti et qui venait de recevoir l'ordre d'accompagner un autre voilier français qui s'aventurait du canal de Suez et qui descendait vers la mer Rouge avec l'intention d'aller vers les Seychelles, donc à travers la zone de piraterie. Ils étaient un peu embêtés parce que accompagner un voilier avec une frégate employée rien que pour protéger ce voilier, c'est quand même pas très économiquement acceptable. Et la manière dont ils s'y sont pris était assez intéressante. En mer, ils sont allés voir le voilier, se rapprocher, et on demandait à la radio, bonjour, bâtiment français, est-ce qu'on peut venir prendre un café à bord ? Et le skipper les a très aimablement reçus, donc ils sont allés à quatre personnes à bord, donc deux personnes qui prenaient le café, et puis deux autres qui s'affairaient avec un mètre ruban et qui prenaient des dimensions. Donc au bout d'un moment, le skipper a dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et ils ont répondu, vous savez, nous on est les commandos, c'est nous qui serons chargés de récupérer votre bateau si vous faites capturer par les pirates. À ce moment-là, ils ont compris, ils ont laissé leur bateau à Djibouti et ça a permis d'éviter potentiellement un drame de plus. Et un autre témoignage, puisqu'on a parlé de thonier, j'ai discuté avec le commandant d'un navire de pêche, donc un thonier basé à Concarneau, et qui va pêcher le thon dans l'océan Indien, parce qu'il y a un approvisionnement assez important, il y a énormément de thoniers qui vont là-bas. Et il était dans une zone où il pensait qu'il y avait un risque de piraterie relativement bas, mais c'était l'époque où les pirates allaient de plus en plus loin. Et finalement, il s'est trouvé face à une attaque de pirates. Donc sur le thonier, il n'avait pas de garde armée à bord, et les pirates sont arrivés et ont commencé à mitrailler complètement le bateau. Le commandant du thonier est resté à la passerelle en s'abritant comme il pouvait, mais il racontait qu'après, sa passerelle était criblée de trous dans tous les sens. Et contrairement à sa volonté, le grutier à l'arrière, donc qui opère la grue qui est chargée de relever le filet, ce grutier est resté à son poste sur la grue, et c'est la grue qui, par ses mouvements, a empêché l'embarcation des pirates de monter à bord. Et à force, alors lui aussi s'est fait mitrailler, et c'est un miracle qu'il n'ait pas été blessé, Mais à force de remuer la grue, ils ont fini par retourner l'embarcation des pirates. Et à ce moment-là, vous pensez bien qu'ils sont partis le plus vite possible. Et là où ça devient un petit peu dramatique, c'est une fois qu'ils ont mis un petit peu de distance entre les pirates et eux, ils ont appelé les autorités des Seychelles qui étaient à proximité. Ils ont dit, il y a des pirates qui sont en train de nager dans le coin, on l'a échappé belle et c'est un miracle qu'on n'ait pas eu de mort. Réponse des Seychellois, ce sont des naufragés maintenant. Allez les rechercher. Vous imaginez bien que la prochaine fois que ça arrive à cet équipage-là, ils se garderont bien de rendre compte à qui que ce soit, parce que c'était extrêmement traumatisant.
Philippe Delbecq, un regard du juriste sur cette question des zones à risque.
Je voudrais d'abord apporter une précision pour, dans l'affaire du Ponant, dont on avait beaucoup parlé il y a lorsque l'événement s'est produit. L'attaque était intervenue, me semble-t-il, en haute mer. Effectivement, donc il y avait un crime, une piraterie dûment caractérisée. Mais ensuite, les pirates s'étaient réfugiés dans un premier temps dans les eaux territoriales somaliennes et puis après sur le territoire somalien. Alors, en principe, les autorités françaises ne pouvaient pas intervenir puisque les pirates étaient sur le territoire somalien. Néanmoins, ce qui restait à l'époque de l'État somalien, s'était manifesté et avait donné l'autorisation aux autorités françaises pour intervenir. Mais en l'absence de cette autorisation, les autorités françaises n'auraient pas pu intervenir. Donc vous voyez, ce qui est très important, c'est de pouvoir, lorsque les pirates se réfugient dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures, il faut trouver des solutions pour que l'on puisse concrètement appréhender les pirates. Alors, on peut le faire si l'État côtier l'admet, donne son autorisation. On peut le faire également sur la base, s'il y a une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais avant que... Oui, il y en a eu, mais bon, c'est quand même... C'est pas... Oui, il y a cette question du droit de suite.
Parce que le droit de poursuite ou de... Parce que là aussi, c'était l'Arlésienne, notamment dans le détroit de Malacca, est-ce qu'on peut ou pas, une fois pour expliquer qu'on a commencé la poursuite dans ces eaux territoriales, comme les eaux sont assez resserrées, on bascule tout de suite dans les eaux territoriales aux zones contiguës voisines. Et donc là, normalement, on devrait s'arrêter. Alors, on négociait une certaine souplesse, mais moi, quoi, je crois concrètement qu'il n'est jamais vraiment venu, sauf là où, avec le nouveau président philippin, qui permet, avec les Indonésiens et les Malaisiens, en disant, mais non, si vous avez commencé chez vous, soyez le bienvenu et continuez chez nous tant que vous les attrapez.
Justement, si je peux me permettre une seconde, parce que dans le droit de la mer, Convention de Montégomé, on admet le droit de poursuite. Autrement dit, si une infraction est commise dans les eaux territoriales, et si l'auteur de l'infraction part en haute mer, se réfugie en haute mer, si j'ose dire, eh bien, on admet que les autorités nationales puissent intervenir et poursuivre leur action jusqu'en haute mer, ceci indépendamment de piraterie.
La haute mer, juste, c'est quelle distance des côtes, Philippe Delbecq ?
Au-delà des 12 000, lorsqu'il y a des eaux territoriales. En France, il y a des eaux territoriales de 12 000, mais dans certains États, il n'y a pas d'eau territoriale, ou des eaux territoriales beaucoup plus limitées. Mais,
c'est 20 km
à peu près. Oui, c'est 12 000 marins, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres. C'est ça. Donc le droit international admet le droit de poursuite, c'est-à-dire une infraction est commise dans les eaux territoriales, les autorités nationales peuvent exercer leur droit de poursuite en haute mer. Bon, c'est le droit de poursuite. Est-ce qu'on peut admettre le droit de poursuite inverse? C'est-à-dire, s'il y a une infraction qui est commise en haute mer, et si l'auteur de l'infraction se réfugie dans les eaux territoriales, est-ce qu'on peut exercer ce droit de poursuite en sens inverse? La Convention ne le prévoit pas. Mais est-ce qu'on peut l'admettre? La jurisprudence, il y a une décision de la Cour de cassation qui laisse entendre que... Mais c'est une simple décision du droit français. Je ne suis pas certain que cette décision, elle fasse jurisprudence dans l'ordre juridique international. Vous voyez donc toute une série de questions intéressantes qui se posent.
Juste revenir un petit peu en arrière sur le droit ancien, bien comprendre que le pirate, c'est clair, dans le passé, jusqu'à la Convention de Montego Bay, jusqu'à même 1981, normalement, le pirate, il est peine de mort. Il n'y a pas de quartier. Normalement, vous savez la différence avec le corsaire qui a une lettre de marque, c'est-à-dire une lettre donnée par une autorité politique reconnue, comme quoi il peut courir contre l'ennemi. Donc normalement, celui qui n'en a pas de lettre de marque, il est pendu haut et court. Mais par exemple, au XVIIIe siècle, ce qui était intéressant, c'est que les Français et les Anglais, donc, qui ont combattu contre la piraterie dans les Antilles, finalement, quand des Anglais, des bâtiments anglais prenaient des pirates, si ces pirates étaient Français, ils les donnaient aux autorités locales pour les pendre. Hein, donc il y avait un jugement en général assez expéditif, mais enfin bon, ça fonctionnait comme ça. Donc et la loi de 1825 prévoyait la peine de mort, hein, en France sur la piraterie, qui d'ailleurs loi a été abrogée en 2007 au moment où il y avait le problème du Ponant, c'est-à-dire que pendant un moment on n'avait plus de loi contre la piraterie. Voilà, c'était, il y avait un vide juridique, c'est quand même assez étonnant. Et en 1981 on a changé quand même cette loi de 1825 pour justement, puisqu'il n'y avait plus la peine de mort en France, donc il a fallu changer cette loi. Une vieille loi, hein, de 1825 qui était toujours et disparue au moment du Ponant, ce qui était assez amusant.
Alors, je propose pour les quelques minutes qui nous restent, peut-être que l'on se tourne vers la salle avec d'éventuelles questions parmi le public présent ici. Je ne sais pas qui souhaite poser la première question, monsieur.
Moi, je suis du Congo et j'ai une petite question qui m'intéresse parce que ce que j'ai entendu, puisque là, la piraterie est en train de glisser petit à petit, peut-être va rejoindre le terme terrorisme, et il s'avère que dans le cadre de nos pays, qui n'ont pas beaucoup de surface, beaucoup de kilomètres de eaux de mer, ils commencent à avoir la piraterie. Et en République du Congo, j'ai vu là, c'était marqué, il y avait deux cas de piraterie. Et dans les populations, on commence à appeler tous ceux qui ont acheté, par exemple, des bateaux pour assurer l'envoi et l'arrivée des marchandises dans nos ports comme étant des pirates, parce qu'il s'est ajouté l'achat aussi des ports également. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas là, au niveau de la juridiction, un vide qui risque de se créer dans la mesure où ce phénomène-là peut prendre de l'ampleur compte tenu de ce qui a été tout de suite signalé, et notamment tu vois, la difficulté de se retrouver pour essayer de faire évoluer et surtout faire avancer le droit. Parce qu'il n'y a pas de réunion au niveau international pour essayer un peu de se conformer à ça.
Alors, une question pour Philippe Delbecq.
Oui, enfin, le Congo, je crois, a ratifié la convention de Montego Bay, me semble-t-il. Donc, il y a quand même cet arsenal juridique qui résulte de la convention de Montego Bay. Et comme on le disait, définition de l'infraction et la possibilité d'appréhender les pirates. Alors, je ne sais pas s'il y a une loi nationale congolaise qui relaie les dispositions de la convention de Montego Bay. Pas certain, mais peut-être, effectivement, faudrait-il sensibiliser les autorités congolaises pour qu'ils se dotent d'un arsenal juridique plus précis, si je puis me permettre, un peu sur le modèle du droit français. Le droit français qui réalise un bon équilibre entre la nécessité de la répression et le droit, naturellement, de la nécessité aussi de respecter les droits de la défense.
Sur Michelet.
Alors, le cas du Congo est intéressant parce que effectivement vous avez quelques actes de piraterie, mais qui sont pour l'instant de la piraterie de niveau assez peu élaboré, donc surtout sur le port. Mais comme le Congo est un État qui a une côte relativement étroite, cela facilite pour les pirates l'évasion vers les pays d'à côté, que sont l'Angola, notamment. D'un côté, le nord, vous avez le Gabon qui ne va pas être loin non plus. Heureusement, pour la lutte contre la piraterie, il y a justement le code de conduite de Yaoundé qui a permis aux pays membres, donc tous les pays autour du golfe de Guinée, de coopérer d'une manière exceptionnelle, au point que les marines de certains pays peuvent intervenir sous contrôle d'un état-major commun, mais peuvent intervenir non seulement en haute mer, mais également dans les eaux territoriales, voire les eaux intérieures d'autres pays, ce qui est complètement inouï. Mais j'ai pu avoir le témoignage de certains commandants d'unité. Ils ont effectivement cette latitude. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le traitement juridique. Malheureusement, le Congo n'a pas... Enfin, bien qu'il ait ratifié Montego Bay, après, une fois qu'on a ratifié une convention, il faut encore la traduire dans le droit national, ce que le Congo n'a pas encore fait. Mais il y a un programme de l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime qui vise à aider, avec également l'aide de l'Union européenne, qui vise à aider chacun des pays autour du Golfe de Guinée pour mettre à jour progressivement sa législation, en profiter également pour utiliser le modèle d'action de l'État en mer qui est en France efficace, comme on nous l'a démontré, et je confirme, c'est un des modèles les plus avancés et les plus efficaces pour lutter non seulement contre la piraterie, mais également la criminalité en général. Et donc le Congo fait partie de ce programme, et on peut imaginer que dans quelques années, il sera à même de juger les pirates qui, malheureusement, ont tendance à se développer.
Avec Fréquent, vous souhaitiez rajouter quelque chose ?
Très rapidement, mais puis si on veut continuer aussi, il y a l'adoption de lois pour mettre en place Montego Bay, mais après, une fois que les lois sont là, il faut aussi les utiliser, parce que vous avez le cas, par exemple, en Indonésie, donc les pirates sont mis en prison, mais 2-3 mois après, le fameux parrain là dont je parlais, qui vient graisser la patte, et hop, ils repartent et pour reprendre des activités ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Et puis toute la question de la corruption en général, parce qu'on voit bien que dans les petits ports d'où partent les pirates, il y a un poste de la marine, mais alors la marine soit elle va fermer les yeux, soit elle va aller patrouiller à droite quand ils vont aller à gauche, soit ils vont se servir au passage, c'est des vieilles traditions mais qui peuvent être reprises, ou se payer sur la bête aussi, enfin voilà. Et alors deuxième chose, mais vous venez de le dire, c'était sur l'action de l'État en mer, où effectivement notamment en Afrique, au gré des initiatives des attachés de défense ou autres, on essaye de coopérer ou d'aider à mettre en place ce modèle, et là ça permet un peu de dézoomer, peut-être d'ouvrir au moment de la conclusion, mais vu qu'il n'y a plus de distinction nette, paix, guerre, ou voilà, marine, garde-côte, maintenant, beaucoup de marines, et même en Asie orientale, du Sud-Est, je vois l'Indonésie, je vois la Malaisie, et même Singapour, réfléchissent à des nouveaux modes d'organisation, des systèmes, pour favoriser cette fameuse coordination entre toutes les agences, la marine, mais après la police maritime, si ça existe, les garde-côtes, si ça existe, les douanes, l'immigration, et c'est vrai que la France, pour le coup, avec son modèle assez unique au monde de préfecture maritime, sous l'autorité du Premier ministre, avait là-dessus, sur en tout cas les nouvelles relations internationales, où on voit une militarisation de la police qui fait des opérations militaires, ben voilà, là il y avait peut-être un coup d'avance, effectivement c'est ce qui se met en place dans certains pays d'Afrique, après je ne connais pas au cas par cas.
Est-ce qu'il y a... Ah non, Jérémy Desjardins me dit que il n'y a plus de questions.
On va poursuivre le programme. Je suis désolée, vous aviez peut-être des questions. Ce qu'on va faire, c'est que comme on doit poursuivre le programme avec la performance qui va démarrer, on fera une nouvelle séance de questions à la fin du deuxième débat, sachant qu'on n'aura pas non plus toute la nuit puisqu'il faut qu'on ferme les portes. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier tous les cinq. Je pense que ça nous donne une très bonne vision de la situation la plus contemporaine de la piraterie dans les mers du monde. On a vraiment visité le globe et je laisse la parole à Géraldine qui va vous présenter la performance qui suit. Je vous invite à rester pour la suite du programme.